Une apérophonie pour la 90.8.
Tout de suite, chef.
C'est noté, chef.
On envoie.
Voici votre gratinée de culture.
Avec son émulsion de découvertes.
Infusée de musique locale.
Et émergente.
Saupoudrée de vie associative.
Mais what ?
C'est l'apérophonie sur Radio Campus Grenoble.
Bonjour ou bonsoir, vous écoutez Campus Grenoble 90.8 ou vous nous écoutez en direct et en replay grâce à la fonction podcast depuis le site de la radio campusgrenoble.org. Vous avez un smartphone, une tablette, un ordinateur portable, une vieille tour avec un grand écran, enfin bref, tous ces machins à la con. Vous pouvez aussi ne pas avoir un poste dans votre voiture ou à côté de votre oreille. Bref. Plein de moyens modernes pour écouter cette apérophonie, l'émission des bénévoles du collectif de Radio Campus. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir les trois membres du trio, donc le groupe au complet, Edgar Siut. Bonjour.
Bonjour.
Salut.
Alors, vous êtes ici parce que vous sortez votre deuxième mini-album. Oula.
Oui, oui, effectivement. Le premier était genre globalement un vrai album.
Non, non.
Apparemment, non.
Non, non. En fait, tu sais qu'il y a des règles. Hein, et que c'est celles édictées par le Billboard. Il faut impérativement que tu aies 8 morceaux dessus.
Il y en a 9 sur le premier.
On pourrait le considérer comme un album. Il faut qu'il fasse une certaine durée.
Il fait une certaine durée. Donc, tout est coché.
Escroc. Vous étiez d'ailleurs venu présenter ce premier mini-album à ce même micro quand il est sorti il y a 4 ans ou pas loin.
Un peu moins.
Un tout petit peu moins.
Il est sorti début 2021.
Ouais.
Ouais,
franchement, ça fait 4 ans.
Dans un mois.
C'est vrai, ouais.
Pas loin de ça. Vous avez mis tout ce temps-là pour sortir le deuxième. Avant de nous expliquer pourquoi ce long parcours, il va peut-être bien falloir raconter quand même l'histoire du groupe. Qui c'est qui s'y colle ?
Simon, n'hésite pas.
Hein. Le groupe a été créé globalement juste avant le Covid.
Super, bon timing.
Parce que parce qu'on est des vieilles personnes maintenant, et quand on était des jeunes personnes dans les années 2010, on avait des groupes ensemble avec Bruno et Jonathan. Pas le même groupe, mais le même groupe de groupes. Et on a absolument jamais essayé de faire des trucs avec ça.
Faire les choses bien.
Voilà, ouais. On était quand même. Bon, on s'est beaucoup amusé, mais on n'a pas fait finalement tant de musique que ça. Donc, en reparlant, c'est quelque chose qui aurait pu être un regret si du coup on n'avait pas décidé de refaire un groupe. Mm-hmm. Avec dans l'objectif d'essayer d'être un peu meilleur musicalement et dans ce genre de trucs. Donc, c'est pour ça qu'on a refait un groupe ensemble, on a repris les mêmes. Et puis, on a essayé de faire autre chose musicalement quand même. Et puis, voilà, on a fait un premier disque. S'en est suivi une longue période de rien, parce que c'est vrai que du coup, la vie d'adulte, bah, du coup, c'est aussi des problématiques d'adultes, des gens qui déménagent, des gens qui changent de métier, des gens qui sont disponibles que les samedis, des gens qui sont disponibles que les mardis, donc on se voit jamais. Et,
des gens voilà. Qui décident de quitter cette belle ville, tout ça, quoi.
Exactement. Alors après, quand on a refait le groupe, tout le monde n'était déjà plus à Grenoble. Mais... En tout cas,
ici que vous vous êtes rencontrés quand même.
C'est, voilà, historiquement, de toute façon, tout nous relie à cette belle ville que personnellement j'adore parce que.
Et j'y suis plus.
C'est le sang.
Non, mais... c'est l'effet nostalgique, mon gars.
Énormément de bons souvenirs ici. Et c'est
et
vrai
plein de mauvais qui expliquent qu'on soit parti.
Bah écoute, je suis parti avant d'avoir beaucoup de mauvais souvenirs, donc ça, c'est.
Bien joué.
Ça
moi, c'est
bien.
Trop tard.
Ça s'entend pas du tout.
Du tout. Pas du tout. Pas du tout.
Mais effectivement, bah, c'est pour ça qu'on a pris beaucoup, beaucoup de temps pour faire un deuxième disque. Mais l'avantage de faire un groupe pour s'amuser avec ses amis, c'est qu'on a du temps. Donc,
ouais, et puis il n'y a pas de pression, c'est pas votre métier à plein temps.
Exactement. Puis c'est pas comme si genre, le genre musical qu'on fait
nous permettait d'en faire un métier.
Allait devenir ringard demain, ça fait 30 ans qu'il est ringard, donc on n'est pas à un an près. Quoi.
Exactement. Le premier mini-album était sorti sur beaucoup de labels. Comment s'était fait la rencontre avec tous ces gens?
Alors déjà, un des labels
C'est le nôtre.
Donc, ça aide. On les a rencontrés, il y a belle lurette, mais et, des gens sympas.
Des gens cool, ils ont dit OK.
Et les autres labels, en fait, c'est des gens qui sont dans, la même, dans le même groupe élargi que nous. Donc, en fait, c'est des gens qu'on connaît plus ou moins de vue ou vraiment depuis un moment.
Ouais.
Donc, que ce soit Bad Els ou. J'ai oublié le nom des deux autres. Danger House et HVIV. Nice. C'est des gens qui ont toujours été dans ce milieu-là et qui, du coup, sont hyper sympas avec les groupes de notre calibre et qui permettent à tout le monde d'essayer de sortir des disques et qui font en sorte qu'il se passe encore un petit peu des choses dans notre style musical. Donc, ça s'est fait assez naturellement, finalement.
Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de chance qu'il y ait des gens comme ça qui ont envie de soutenir les gens comme nous. Donc, on est très, très reconnaissants.
Merci.
Des vrais passionnés.
Exactement. Ouais, et depuis longtemps.
Oui, qui sortent des disques parce qu'ils ont envie de les avoir.
Et parce qu'il y en a en plus, ils vendent des disques. Donc oui, c'est... Bah, la boucle est bouclée, quoi.
Dangerous Skylab, c'est l'émanation du magasin de disques lyonnais. Donc lui, il voit bien ce qui se vend, ce qui ne se vend pas. Mais en même temps, il a sorti, je ne sais plus, il doit être à 40 sorties déjà, au moins.
Oh, je...
Peut-être même plus. J'ai pas compté, mais il y en a certains, parce que moi je le connais depuis quasiment l'ouverture, il y en a certains qu'il est encore en stock.
Bien sûr.
Il y a peu de chances qu'ils vendent intégralement et d'autres qui partent très très vite. Mais en fait, c'est pas pour ça qu'il sort des disques. Il sort les disques dont il aime la musique.
Ouais, c'est ça, c'est vraiment dans l'objectif d'essayer d'aider les groupes locaux à sortir des choses, quoi, de faire en sorte qu'il se passe toujours quelque chose. Donc c'est vraiment quelqu'un de bien.
Ah, c'est ça, parce qu'effectivement, il sait très bien quand il sort notre disque, il ne va pas vendre tout son stock.
Il ne va pas partir en vacances avec. Quoi.
Voilà, pas très rapidement en tout cas. Enfin, il faut le vendre avec... il faut y mettre du cœur, il ne va pas partir tout seul. Quoi.
Même si il y a eu de très, très bonnes réactions à votre premier mini-album, ou album, on ne va pas se battre là-dessus.
Disons album.
J'ai arrêté de me battre, Pinot.
Disons album, oui, d'accord.
Mais en vrai, le premier a globalement été... vendu par tous les labels, il n'y a plus personne qui a vraiment de stock. Donc c'est vrai que ça, c'est cool pour nous. On a eu... Bah, le premier, c'est vrai qu'on a eu plein de chouettes retours et ça fait plaisir parce qu'on ne savait pas du tout nous-mêmes si on allait bien aimer la musique qu'on allait faire. Vu que c'était le Covid, on a sorti l'album avant d'avoir fait un concert. Donc c'était déjà une expérience particulière parce qu'on n'a pas beaucoup d'expérience d'enregistrement de base. On a enregistré entre nous, donc on n'avait même pas vraiment de regard extérieur dessus. Et personne n'avait jamais entendu ce qu'on faisait. Donc ça faisait beaucoup de raisons
d'avoir
peur d'être nul. Et c'est vrai que ça a été très agréable d'avoir plein de belles choses dites par plein de gens sympas.
Et oui, et puis bon, il s'est beaucoup vendu parce que vous avez mis un chat sur la pochette.
Ça a dû aider.
Ça a pas fait les chats, il paraît que c'est bankable.
Ah ouais, ça fond, ça marche à tous les coups. Qu'est-ce qui s'est passé après la sortie du premier album? Vous avez fait beaucoup de concerts ou vous n'avez pas eu plus que ça?
Bah on a essayé d'en faire un max. Je ne saurais pas te dire combien de concerts on a fait. Je n'ai pas du tout de noter. Bruno
a
incarné.
On a fait une quinzaine de concerts dans l'année qui
vient. Je dirais, ouais.
Ouais, du coup, ouais, des concerts et écriture du deuxième disque en même temps. Parce que du coup, étant donné qu'on avait écrit le premier, dites-moi si je me trompe, mais le fait qu'on avait écrit le premier avant de faire des dates, en fait... il me semblait qu'il manquait un petit peu de morceaux un peu plus péchus comme on peut avoir sur le deuxième disque. Et je pense que c'est ça la vraie différence entre les deux, c'est que du coup, vu qu'on l'a écrit en faisant les dates, je trouve qu'il y a plus d'énergie sur le deuxième, du coup, qui est lié au fait qu'on les écrivait pour avoir quelque chose d'un peu plus péchu sur scène, quoi.
Tout à fait. Et ce deuxième album ou mini-album, vous l'avez enregistré comment? Chez qui,
comme le premier, en fait, au final, dans l'urgence, entre nous, Simon
vous
a fait...
Bruno Père.
Simon a fait le mix et les prises également, et tout était enregistré au local à Lyon.
C'est vrai que le premier, on l'avait enregistré dans la salle de concert du Ciel, et on aurait aimé pouvoir faire pareil, mais un différent de calendrier fait qu'on n'a finalement pas pu aller là-bas, donc on s'est rabattu sur un modeste local de répétition lyonnais. C'était le local de Star Shooter. Voilà, j'ai pas plus cela. Glorieux.
C'est pas mal quand même.
Ouais, voilà, mais bon, c'est vrai que c'était.
C'est un joli parrainage à travers le temps.
C'est un beau local de répète, mais c'est vrai que c'est dommage de pas avoir eu le confort de la salle du plateau de la salle de spectacle. C'est quand même un peu plus fun, quoi.
C'est ça. Et les prises de son sont faites comment? Vous avez fait les basic tracks tous ensemble ou...
Ouais, c'est enregistré live, hormis les voix et un peu de rajout de guitare par-ci par-là, mais sinon, ouais, l'ensemble est fait live.
Ça s'entend.
Ouais, je pense.
C'est positif ou...
Non. Alors, pour moi qui ai travaillé dans un studio d'enregistrement à une époque où on était sur des bandes et qui suis un dangereux maniaque de l'enregistrement tous ensemble, c'est un vrai compliment parce que franchement, moi, les trucs repassés 10 000 fois par Pro Tools ou ce genre de machin où tout est recalé au minimum et à la fin...
Là, c'est pas le cas du tout.
À la fin, t'as l'impression qu'il faut que tu mettes des gants à latex, un petit masque et puis une tenue... pour salle blanche avant d'écouter le disque tellement il est stérile quoi tu vois et que moi le rock j'aime bien quand ça pulse un tout petit peu.
Ouais bah là pour le coup ouais, non nous on fait live enfin la plupart du temps en plus on a genre 2 jours pour enregistrer donc
voilà, ouais.
On n'a pas vraiment le temps de se permettre d'essayer de faire des re-re toute la journée donc le but c'est d'aller vite et au mieux possible quoi.
Mais aussi c'est vrai qu'on est quand même content sachant qu'on n'a pas forcément une grosse expérience de musicien entre nous, même si ça fait longtemps qu'on fait de la musique à notre échelle, mais j'ai toujours eu pour ma part cette grande peur d'avoir un disque qui est mieux que ce dont on est capable en concert. ouais. Parce que ça a pu être le cas par le passé. On avait fait un enregistrement que j'adore aujourd'hui, mais franchement, on était incapable de reproduire ça en concert. Et c'est quand même... C'est un peu le trauma. Donc là, au moins, on s'est dit... Quel que soit l'enregistrement, on aura ce qu'on mérite, parce que c'est ce qu'on est capable de faire.
Très bien, bah, je pense que ça fait déjà plus de 10 minutes qu'on cause. Si on écoutait un premier extrait de ce deuxième mini-album des Edgar Suits...
Living my life.
C'était donc le premier morceau du nouveau disque des Edgar Suits qui sont dans les studios de Radio Campus. Le disque s'appelle A Few Fun Facts About the End of the World. Pourquoi ce titre?
Je me permets de répondre.
Je pense que c'est mieux.
Il s'appelle comme ça parce que, de base, quelles que soient les chansons qu'on enregistre, on n'a pas forcément... Ils ont quand même plutôt une tonalité assez mineure. On est cependant des gens, enfin pour ma part en tout cas, quelqu'un d'assez peu malheureux dans ma vie parce que j'ai énormément de chance que tout me sourit. Et donc, pour écrire des choses tristes, quand on n'a pas forcément une vie très triste, c'est pas évident. Donc, on va s'inspirer à plus grande échelle. Et globalement, il s'est avéré que toutes les chansons parlent plus ou moins de... la fin du monde, la fin de l'humanité, la fin de la civilisation, la fin... des fins, ça parle des fins, globalement, plusieurs types de fins à plusieurs échelles, mais ça se rejoint à peu près toujours à ce niveau-là même. On a une reprise des Batman, qui est Bubble Skies,
bah oui.
Qui malgré tout aussi parle d'un modèle civilisationnel qui est le nôtre, qui est...
En bout de course.
Exactement, ouais, donc ça marche. Donc voilà, ça, des fins du monde, des histoires de fin du monde.
Vous avez prévu de faire une reprise de It's the End of the World as we know it and we find the REM?
On n'a pas prévu de faire du REM.
C'est dommage, le morceau est excellent. Hein.
Et je le connais pas du tout.
C'est sur la première période de REM qui est vraiment indie rock à l'américaine de 90. Fin 80, début 90, c'est une très très belle chanson.
Il colle très bien en tête, ouais.
Ouais, c'est une fois que tu l'as entendu, vu qu'il est c'est une boucle. Une fois que tu l'as entendu, après, t'as du mal à te le sortir de la tête et c'est vraiment bien fichu, quoi.
Il ouvre Independence Day, si tu veux te regarder le film.
Aussi. Putain, je conseille moins le film que le disque, mais bon, j'apprends.
Il est pas mal, le film.
Oui,
je l'ai regardé l'autre jour.
Pour manger du pop-corn sur son canapé quand on peut pas bouger, c'est
dimanche
parfait.
Dimanche soir, parfait.
Et voilà, sous la pluie. Justement, puisque vous avez fait... Tu l'as évoqué, pourquoi cette reprise des Batman?
Parce que déjà, c'est un très très bon morceau.
Oui.
Et que, on a toujours aimé ce morceau, il y avait quand même un peu cette volonté de faire une reprise des anciens de Grenoble. Et pour ma part, ça me semblait assez logique que ce soit ce morceau qui pour le coup est vraiment cool et qui sonne en plus un peu, je trouve, comme ce qu'on fait nous, quoi, parce que les Batman ont d'autres morceaux qui colleraient moins, je pense.
Oui, plus tendu, plus rhythm and beat.
Et ouais, voilà, et c'est ça, pour le coup, ce serait pas trop logique par rapport à ce qu'on fait nous, alors que ce morceau, je trouve, colle vraiment bien dans le disque, quoi.
Il est vrai que il y a plein de vieux groupes grenoblois qu'on aime bien, que ce soit les Batman ou Chameleon's Day ou les Tijuana Kids ou des groupes que j'oublie parce qu'il y en a plein d'autres aussi.
Bah oui.
Et effectivement, on les aime tous beaucoup. Il y en a plusieurs qui auraient pu coller aussi, mais pour aussi des questions pratiques.
Et Chameleon's Day, ça avait déjà été fait en plus.
Chameleon's Day, ça a déjà été fait par les Firecrackers. On aurait pu aussi reprendre les Firecrackers parce qu'on adore les Firecrackers.
Qui reprennent les Chameleon's Day.
Ça devient trop compliqué. La troisième couche, elle devient plus difficile à détecter.
Mais effectivement, ouais, le choix s'est arrêté sur cette chanson. Et ceci dit, c'est pas du tout un regret pour nous, quoi. On adore cette chanson.
Non, j'adore toujours cette chanson.
C'est super parce qu'en fait, c'est compliqué de trouver les disques des Batman parce qu'ils ont édité une compile il y a pas longtemps, mais elle est épuisée.
Très vite.
Et puis quasiment tout de suite.
Voilà.
Si que vous... les vieilleries, soit tu les trouves par chance dans un bac de cases, dans un magasin du fin fond de la campagne.
Non, j'ai pas encore eu cette chance, moi.
Et voilà, ouais. Et c'est compliqué de trouver leurs disques et on les trouve pas sur les internets.
Si vous voulez du Batman, achetez notre disque.
Voilà.
Nous, on en a.
Il y a un sixième de Batman.
En plus, donc, moi, dans l'émission, j'ai diffusé les deux morceaux, la version originale et la vôtre, l'une derrière l'autre. Et en fait, vous arrivez à être assez différents tout en étant respectueux de l'original, ce qui est pas toujours aisé comme équilibre à trouver.
Merci.
Compliment.
J'avoue que il est toujours extrêmement dur de se comparer, de faire le point nous-mêmes sur la comparaison entre les deux. Forcément, on a notre avis sur ce qu'on préfère.
La nôtre, évidemment.
C'est normal. Sinon, on l'aurait pas fait.
C'est faux.
Et alors, donc on va révéler un petit secret de fabrication. On est en train d'enregistrer l'émission un dimanche matin, en fin de matinée. Et il y avait une autre émission qui finissait son enregistrement au moment où on est arrivé. Et l'animateur vous a demandé quel style de musique vous faisiez. Vous avez été incapable de répondre, c'est drôle. Vous n'arrivez pas à qualifier votre musique.
Je vais la musique honnête. De manière générale, je suis incapable de la qualifier, moi,
c'est
personnellement.
C'est aussi une grande flemme.
Ah oui, d'accord.
Il est vrai que la question, quel est le genre de ton groupe musical ? Question, la flemme de répondre souvent. Question un peu de covoiturage, tu vois. Donc, effectivement, je qualifie ça de groupe de rock.
Ah, okay, d'accord.
Mais j'ai un avis un peu plus arrêté sur la question. Mais écoute, tu l'avais très bien défini toi-même, du coup, quand, pour répondre.
Oui, moi j'ai dit c'est New Wave 79, un peu de power pop et de l'indie 90. Vous mettez tout ça dans un shaker, vous secouez très fort et ça donne Edgar Suits.
Certainement un peu de tout ça.
Ce qui est assez drôle parce que, enfin perso, il y a beaucoup de monde qui nous a dit ça, mais genre l'indie 90 par exemple, genre j'écoute zéro seconde ça quoi.
Non mais ça n'empêche pas.
Mais c'est vrai.
Non mais carrément.
En plus, tu sais, dans ton cerveau, il y a des trucs qui réapparaissent. Tu sais pas d'où ils sortent. Et puis, c'est très bien comme ça. C'est-à-dire des machins que tu n'as pas écouté depuis une éternité. Et malgré tout, ça infuse quelque part en toi. Puis après, dans les groupes, quoi, on avait déjà cette discussion hier à midi avec une amie. Et elle disait, putain, mais en fait, ce truc-là, j'ai fini par découvrir d'où venaient leurs premières influences. Et je me rends compte que... ils aiment des choses que moi, j'ai jamais entendues de ma vie, mais comme ça transparaît très légèrement, enfin, tu vois, il y a une continuité. C'est-à-dire qu'en fait, parfois, tu n'as jamais écouté... Il y a des groupes qui sont très marqués par un seul type de musique que toi, tu n'as jamais écouté. Mais comme, tu vois, ça infuse dans différents groupes que toi, tu aimes, ça finit par te... Quand tu écoutes l'original, tu te dis « Ah ouais ! Ah mais oui !»
Mais c'est ça. Tu vois, pour prendre l'exemple, il y a beaucoup de monde qui nous a parlé de Killing Joke.
Oui, c'est parce qu'en fait...
Pour le son de basse,
ouais,
notamment.
Ouais, c'est ça.
Alors que j'avoue, Killing Joke, je connaissais le nom, j'avais jamais écouté de ma life. Et en écoutant, d'ailleurs, j'ai pas réécouté depuis, parce que j'ai pas non plus envie, genre, qu'on devienne...
De faire du Killing Joke,
exactement.
Du coup.
Ouais, alors, et... en fait, vous avez... ils ont son de basse, à peu près, que sur deux albums, hein, parce que sur toute leur discographie, ça a beaucoup changé les influences et les... Ouais, ouais.
Mais sur les prochains, on changera le son de basse, du coup.
Comme pour coller à leur nouveau style.
C'est ça.
Je crois que le bassiste est décédé, donc c'est pas une bonne nouvelle pour vous. Mais...
Pour Jonathan, surtout. Ouais,
c'est ça. Non, franchement, justement, c'est ce qui est intéressant aussi dans la formule trio, c'est qu'en fait, on entend très très bien les trois instruments, de façon très distincte. Parce que souvent, quand il y a deux guitaristes, le bassiste, il est un peu loin dans le mix, on dira, pour pas être méchant. Et donc là, il y a moyen de se bien s'éclater.
Ah bah non, là ouais, c'est ça qui est cool. Enfin pour moi, en tout cas, qui fait de la basse, c'est qu'il y a de la place. Ouais, il y a moyen de jouer.
Et t'as déjà joué dans des groupes où il y avait deux guitaristes ?
Bah à la base, je faisais de la guitare dans un groupe où il y avait deux guitaristes. Et pour être honnête, à l'époque, la basse, enfin,
on s'en foutait.
Dans le genre de musical qu'on faisait, enfin, ça avait pas vraiment grand intérêt à nos yeux, quoi. Grosse erreur de ma part, hein, maintenant. Mais à coup de pas. Désolé Simon qui jouait de la basse dans ce groupe à l'époque.
Aucun problème. L'important, c'est que maintenant, on s'amuse bien. Et c'est vrai que franchement, c'est un groupe qui repose énormément sur la basse au niveau mélodique et trucs comme ça. Et bah, j'adore. Enfin, moi, je trouve que justement, la basse prend toute la place qu'on lui a jamais accordée avant. Ah bon. Et ça
prend une vengeance.
À noter que quand Jonathan faisait la guitare et qu'il aimait pas la basse, c'était moi qui faisais la basse dans son groupe.
C'est ça.
Pour ça, la légère tension.
Mais c'est même pas
que
qu'on n'aimait pas, c'est qu'à l'époque, ça nous... enfin, on faisait des groupes à guitare en fait. Donc tout ce qui comptait, c'est faire des ouin 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 et on était contents quoi. Donc,
très
forcément,
content.
La basse, on s'en foutait un peu plus quoi. Mais c'était une grosse erreur de notre part.
Le fait que vous ayez joué tous les deux de la basse et de la guitare, est-ce que vous pensez que ça a aussi une influence dans la façon dont vous traitez la chose dans Edgar Suits?
La chose basse.
Non, les deux, l'équilibre entre les deux, etc. Vous avez une vision plus large que vous aviez à l'époque
ou... Moi, je pense que ça fait surtout qu'on n'a jamais pris le temps de bien apprendre à jouer que de la basse ou que de la guitare. Déjà, il y a ça.
Il faut arrêter de changer. Ouais.
Les super instrumentistes ne font pas toujours des super disques.
Mais je pense que le simple fait d'avoir grandi et d'avoir mûri un peu nous permet maintenant à tous les trois d'être plus en mesure d'écouter ce qui se passe au niveau des autres instruments, d'essayer de jouer ensemble et de construire des trucs ensemble. Je suis pas sûr que le fait d'avoir changé d'instrument joue là-dedans. Mais par contre, effectivement, ouais, le fait d'avoir un peu plus d'expérience, ne serait-ce qu'en tant qu'auditeur, rien que ça, ça nous a permis d'essayer d'être meilleurs musiciens, ce qu'on n'essayait pas trop d'être à l'époque.
Ok, si on écoutait un deuxième extrait de cette deuxième sortie des Edgar Suits, ça vous convient ?
Avec plaisir.
Avec plaisir.
Est-ce qu'il y a un endroit où on peut l'acheter à Grenoble, tiens, vu qu'on est sur Radio Campus Grenoble ?
Franchement, vous pouvez nous envoyer un message.
Je peux donner mon adresse.
Viens boire des coups à la maison et amène des sous.
Non, c'est vrai qu'à Grenoble, on n'a pas. Enfin, il est pas disponible en magasin à Grenoble, mais étant donné qu'on est à Grenoble, n'hésitez pas à nous envoyer un message si quelqu'un veut posséder ce disque. On fera le déplacement avec plaisir.
Toutes les références sur le podcast de cette émission qui est sur le site de la radio, puisque cette émission est enregistrée, vous aurez juste à cliquer dessus. Le site, c'est campusgrenoble.org. Sinon, vous passez par le bandcamp du groupe edgarsuit.bandcamp.com. On a commencé par le premier titre de la face A. On va enchaîner avec le premier titre de la face B. On va réfléchir après pourquoi vous avez mis les titres dans cet ordre-là. Et est-ce qu'il est important, quand on fait un 33 tours, enfin un 12 pouces, de choisir très attentivement comment les morceaux s'enchaînent. Les Edgar Suits sur Campus Grenoble 90.8. Edgar Suits dans l'apérophonie sur Campus Grenoble 90.8 en direct et en replay sur campusgrenoble.org, un titre qui ouvre la face B de leur nouveau disque A Few Fun Facts About the End of the World. Le morceau s'appelle Modified Nestor. De quoi ça parle ?
Merci d'avoir posé la question. Alors ceci dit, j'en profite, je pense sincèrement que maintenant, si on voudra que les gens écoutent les paroles, faut qu'on écrive des trucs en français, parce que genre baragouiner dans un mauvais anglais des trucs que de toute façon les gens comprennent pas, En fait, ça sert à rien. Enfin, genre, c'est contre-productif en termes de message, je pense. Mais en tout cas, ce morceau parle de, est basé sur une nouvelle d'Isaac Asimov qui s'appelle Petit robot perdu. Je traduis comme ça de tête. je vais faire extrêmement bref parce que je pourrais en parler des heures. Mais en gros, il y a des robots qui ont eu une modification dans leur fondement des trois lois de la robotique, comme développé par Asimov pour permettre aux intelligences artificielles de protéger l'espèce humaine d'une révolte des robots. Et là, on se rend compte que même une simple petite modification qu'on pourrait penser sans conséquence peut aisément provoquer la fin du monde. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter si vous voulez en parler plus longtemps, parce que je peux en parler des heures.
T'es un gros fan de science-fiction ou juste de Asimov ?
On aime bien la science-fiction. Tous.
Ouais, de manière générale, après certains plus que d'autres.
C'est bien si tu te rapproches du micro.
Oui, pardon. Ouais. Non, de manière générale, après certains plus que d'autres, même s'ils ne parlent pas beaucoup depuis tout à l'heure, mais Bruno est un gros fan de science-fiction.
C'est vrai que la science-fiction, en général, a tendance à beaucoup nous plaire.
Et donc, c'est une source d'information.
C'est un message de Bruno.
Ouais, les batteurs, c'est pas des gens comme nous, en fait.
Au niveau de la parole ?
Au niveau de tout. Ils arrivent à faire des trucs avec leurs quatre membres. En même temps et en décalé. Et ça,
en décalé, ça ils te le confirmeront. Il n'y a pas de souci.
Bon, juste avant d'écouter ce morceau, je disais que donc c'est celui qui ouvre la phase B, qu'il y a un équilibre entre les deux faces, mais le choix de comment on les passe, enfin l'ordre, ça a été un vrai dilemme ou c'est arrivé assez naturellement?
Il y a eu pas mal de discussions. Après, le fait qu'il y ait 6 morceaux, il n'y a pas 1000 combinaisons possibles. Donc déjà, ça arrange quand même pas mal les choses. Mais après, je crois qu'il y avait quand même cette volonté de commencer chaque face avec un morceau qui soit quand même assez péchu, histoire de... Enfin, il y a 3 morceaux par face. Donc si on commence par un morceau un peu lent, moi, je trouvais que c'était un petit peu se tirer une balle dans le pied. Donc déjà, il y avait cette volonté-là. Et après, les autres, je me souviens plus exactement dans quelle... circonstances, on les a mis dans ce sens-là, quoi.
On a suivi un peu l'avis de Jonathan, qui est assez pertinent sur un format court, d'avoir notre morceau préféré, on l'a mis en premier.
Voilà.
Un peu comme si c'était un single. Et ça nous va bien. C'est vrai qu'habituellement, pour moi, sur un album, la place du meilleur morceau de l'album, c'est le deuxième morceau de la face A. Parce que, genre, on met un morceau.
Tu mets une intro. Ouais.
On fait croire que c'est ton morceau préféré en premier. Les gens disent, ouais, il est cool. Et après, bam, on enchaîne avec le vrai meilleur morceau. Okay. Mais là, sur un format plus court, c'est vrai que comme ça marche bien. Les gens ont un préféré. Internet a parlé. Et leur préféré, c'est A3. Doomsday Device. Ce qui est assez, si on recoupe avec les données qu'on avait pour le 10 précédent, est assez dans la continuité, parce que c'est le morceau qu'on a mis le moins de temps à écrire, je pense, qui est composé de 3 accords. Et exactement comme le 10 d'avant, le morceau que les gens ont préféré, c'est le morceau où il y a 3 accords et qu'on a mis 5 minutes à écrire. Donc vraiment, on arrête la musique.
C'était quoi ?
Non, mais par contre, on sait que le prochain album va sortir beaucoup plus vite, n'aura pas plus de 3 accords par morceau.
Et là, ça sera un vrai mini-album.
C'est ça. Et c'était quoi le morceau préféré des gens sur le premier ?
Sur le 10 d'avant, c'était Electric Man Return.
Ah ouais, c'est
un très bon morceau. Ouais. C'est vrai que pareil, ouais, il est... assez simple, quoi.
Plus punk rock.
Simple et direct. Ouais.
Exactement. Bah, c'est vrai que c'est les morceaux qu'on a qui sont les moins travaillés, mais qui sont les plus efficaces.
C'est le côté spontané, du coup, qui fonctionne, quoi.
Et qui sont très, très, très drôles à jouer.
Et du coup, important, du coup. C'est également important. Le disque a été tout de suite conçu comme étant prévu pour être sur un vinyle.
En fait, nous, on a quand même cette culture du disque, du vinyle. Donc, c'est vrai que... Quand on sort quelque chose, ça nous semble assez naturel de sortir du vinyle, même si à l'heure actuelle, le vinyle, ça devient un petit peu n'importe quoi au niveau des prix.
C'est vrai.
Et du coup, c'est vrai que moi, je suis quand même un peu un vieux réac là-dessus qui aimait bien acheter des disques à 10 balles à l'époque.
Ben oui.
Et du coup, c'est vrai que j'ai un peu du mal, moi, à continuer à acheter du disque à cause de ça. Mais quand on sort un disque, ça me semble logique qu'on sorte un vinyle, même si on n'en sort pas beaucoup d'exemplaires, mais... au moins en avoir quelques-uns pour dire qu'on a notre vinyle, quoi.
C'est vrai que là, du coup, on a pu se permettre de faire les darons, parce que grâce au disque d'avant, on avait un peu de sous dans la caisse du groupe. Et en gros, on s'est dit qu'on allait se faire un petit plaisir et le sortir. Et je suis assez d'accord avec Jonathan, c'est pour ça aussi que du coup, celui-là, on le vend à 15 balles max parce que du coup, on n'a pas envie de vendre le 10 plus cher.
Tu m'étonnes.
Bah, puis en plus, je tiens quand même à préciser que les merveilleux labels qui nous ont aidés sur la sortie du premier, nous ont aidés sur la sortie du deuxième aussi.
Bah, ouais. Évidemment, c'est vrai qu'on n'a pas dit ça. Ouais.
Et tous, d'ailleurs.
C'est vrai, tout le monde a re-signé, donc c'est très sympa. Et tout le monde a joué le jeu aussi pour avoir...
Engagez-vous qui disait.
Mais voilà, tout le monde est OK pour le prix de vente à 15 balles. Donc tout le monde sait que personne gagnera d'argent là-dessus.
Mais c'est pas le but.
Quoi qu'il se passe. Et c'est pas le but et on est content. On est très content de l'avoir sorti.
Oui, et puis en plus, le fait qu'il y ait plusieurs labels qui soient investis dessus, ça veut dire aussi qu'il y a des facilités pour le vendre.
Il y a plus de monde qui essaye de le vendre, ouais, en tout cas. Voilà, ouais. Donc forcément, c'est plus simple d'essayer de vider le stock hein. si je peux dire ça comme
déjà,
ça.
Déjà, on le divise par 4. Ouais. Et ça va plus vite.
Oui.
Enfin, si les gens l'achètent, ouais.
Après, l'avantage, c'est que vu qu'on divise par 4, les 3 quarts, c'est pas notre problème. Hey, s'ils se vendent pas, mais... on s'en fout, nous.
Nous, on a fait notre part. Chacun se démerde.
C'est faux, évidemment.
Et vous allez faire une release party pour cet album le 11 janvier au Troxon à Lyon.
Effectivement.
Très bel endroit, le Troxon.
Bah oui, formidable. C'est un peu la deuxième maison, en fait.
Ouais. C'est vrai que c'est... La maison tout court. Hein. C'est un lieu... on aurait un lieu pareil à Grenoble, ça changerait tout.
Mais c'est vraiment le même état d'esprit que Dangerous. Quoi. Ça permet de continuer à ce qu'il y ait des petits groupes qui continuent de jouer, d'avoir une scène locale. C'est vraiment ce genre de lieu et de labels qui, du coup, sont importants. Quoi.
C'est ça, et puis c'est à 300 mètres de chez Dangerous, donc c'est facile de ne pas se perdre. On fait les deux dans la même journée et on a passé une bonne journée à Lyon, tu vois.
Et on n'a plus de thunes.
Oui, c'est un peu le problème aussi, mais bon, après on vient ici pour en gagner, parce que c'est pas à Grenoble qu'on va dépenser notre argent quand on est fan de rock.
En disque, non, ça va être compliqué sur Grenoble.
En autre chose aussi, hein. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, la release party, vous la faites à Lyon, parce que c'est compliqué de jouer sur Grenoble quand on fait du rock avec des guitares.
Il y a très peu de lieux à Grenoble, ouais, pour le problème à Grenoble, en fait, c'est qu'il y a des grosses salles et pas de petites salles. Enfin, il n'y a pas de choses intermédiaires pour des groupes comme le Troxon, en fait. Il n'y a pas ce genre de jauge où on peut jouer en étant un petit groupe local. C'est tout de suite ramener 500 personnes dans une grande salle. Ce qui...
300 personnes.
300 ouais, bah... personnes, même 300 personnes.
Même 300 personnes.
Ouais, 300 personnes, c'est beaucoup.
Non, mais voilà, c'est tout de suite compliqué. Il faut organiser des trucs, il faut louer une grosse salle. Enfin, c'est... Grenoble, c'est un peu compliqué pour ça, ouais.
Mais d'abord, il y a le fait qu'il y ait peu de lieux qui sont vraiment adaptés au niveau contenance. Et puis, il y a aussi énormément de groupes sur Grenoble. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de groupes et de projets musicaux. Donc, en fait, ça fait effet d'entonnoir aussi.
Ouais. Et bien, il y en aurait vachement plus s'il y avait un troxon.
Oui, ça, c'est sûr. Non, mais ça, c'est évident, ouais.
Ouais, parce que, genre, il est hors de question que l'excuse invoquée pour l'absence de concert à Grenoble, soit qu'il y a trop de groupes à Grenoble, je tiens quand même à mettre les choses au clair.
Non, ça on est d'accord, mais le fait qu'il y ait peu de lieux et beaucoup de groupes existants, bah forcément, ça réduit les possibilités.
C'est vrai. Ouais.
C'est un peu des mathématiques, on va pas faire des mathématiques un dimanche matin, mais non. Bon, c'est quand même un peu des maths, quoi. Et puis vous allez jouer également à Marseille pour la sortie de cet album.
C'est ça, ouais, le 1er février à Marseille. À la salle Golf, pour ceux qui connaissent, et celles qui connaissent, qui est genre globalement le Troxon, mais à Marseille.
Voilà, avec en plus des Lyonnais.
Exactement, avec le groupe Faux Départ de Lyon. Alors, c'est une exclue hein, que je vous lâche, là, personne n'est au courant. Bon,
c'est une avant-première pour Radio Campus, merci.
Sur les doigts. C'est cool parce que c'est un groupe qui est un peu dans la même vague musicale, ou la même veine, du coup, c'est ce que je voulais dire, okay. Je pense, la même veine musicale. Du coup c'est chouette, moi je trouve que c'est un plateau très cool et ça me fait très plaisir de savoir qu'on va jouer ensemble.
Ouais, j'ai découvert leur disque il y a pas très longtemps et c'est vrai que c'est bien fichu cette affaire là et on aimerait bien les voir sur scène, ouais.
Et faut venir à Marseille.
C'est tintin garçon, c'est tintin, le lendemain de mon déménagement ça pourrait se faire. Mais...
Si tu déménages à Marseille,
non.
Parfait.
mais c'est pas grave. Et après vous avez d'autres projets, d'autres envies?
Il faut qu'on se bouge un peu le popotin, pour être honnête. La sortie du disque a finalement coïncidé avec pas mal d'événements qui font que ça n'a pas forcément été la priorité de tout le monde. Donc, on est un peu en mode diesel pour la remise en route du projet. Mais encore une fois, l'avantage, c'est qu'on a le temps. Mais effectivement, notre but du jeu, c'est quand même de faire des petits concerts à droite à gauche avec ce disque parce qu'on l'aime bien. Et en plus, c'est quand même pour ça qu'on fait de la musique ensemble à la base et pour faire des concerts.
Ouais, faire la fête le week-end avec les potes, c'est quand même...
Exactement, ouais.
Plutôt cool, ouais.
La boue de vieux, c'est quand même toujours cool.
C'est le lendemain qui est difficile.
Ça va, ça va.
Ça va, on est vieux maintenant, tu sais.
Maintenant, fais attention, tu sais.
Maintenant, on boit de la limonade, maintenant. Bon, bah justement, si on écoutait le morceau préféré des gens de votre premier album...
Ça me le peuple a parlé.
L'album s'appelait Despite All Humans.
Despise.
Despise. Ouais, mais moi, je suis dyslexique, monsieur.
Donc, ça change le sens, parce que sinon, ça veut dire malgré les humains, alors que nous, on veut mépriser les humains. Donc, il faut que ce soit clair.
On peut faire les deux, hein.
On peut faire les deux. On les méprise malgré eux.
Voilà, on les méprise et puis on fera des choses sans eux. C'est encore mieux. Et le morceau s'appelle Electric Man Return, les Edgar Suit, extrait de leur premier album. Edgar Suits avec un extrait de leur premier album qui s'appelait Despise All Humans, et on va donner le nom des quatre labels qui se sont mis sur l'affaire pour sortir ce disque-là. Il y a Danger House Skylab, Electric Man Records, Elvicious Ivicious Records.
Elvice.
Ouais.
Ouais, Elvice Ivicious.
Ivicious. Je sais pas s'il faut dire avec l'accent anglais ou quoi. Mais...
Pardon.
C'est ok.
Et Bad
HVIV,
Elf,
HVIV, ouais.
Et Bad Elf Records. Electric Man, dans la chanson, dans le nom du label, il y a forcément une explication.
C'est le troisième morceau que nous faisons qui s'appelle Electric Man dans toute notre vie.
Alors, quatrième, j'en ai fait
quatrième.
Un aussi solo.
Ouais. Incroyable, je l'avais pas celui-là.
Ouais, voilà. Vous allez sortir un disque où il y aura que des morceaux qui s'appellent Electric Man.
On pourra sortir une compile un jour,
vrai,
peut-être.
Electric Man, c'est le nom de notre asso Electric Man Organisation qu'on avait il y a une grosse douzaine d'années quand on organisait des concerts
c'est
à Grenoble.
C'est ça, le nom du Turbo Jugend aussi à l'époque.
Voilà.
Tout était lié autour de ça. Quoi.
Mmh, donc,
et vu qu'on est des gens pas originaux, on a pris un truc qui nous fait rire et on le fait partout.
Voilà, exactement. Donc à l'époque, déjà, Electric Man était présent sur tous nos groupes de musique. Il y avait un morceau qui s'appelait Electric Man. On sort tous nos disques sous le label Electric Man Records, qui évidemment, genre, n'existe pas. Mais non, c'est quand même sa huitième sortie, je crois.
Mais pour un label qui n'existe pas, c'est quand même un bon score.
Ouais, c'est vrai. Et un électrique score.
Incroyable.
Et donc c'est le troisième morceau qui se trouve sur votre premier album et c'était aussi votre troisième composition.
Je fais des maths. Putain, je fais le troisième du disque, on te fait confiance là-dessus.
On part en numérologie, c'est ça.
Alors, ah merde.
Qu'est-ce que ça dit de nous?
Les compositions du premier, c'était un peu... vu que c'était un début de projet, certaines personnes sont arrivées avec déjà des idées dans leur coin, des trucs plus ou moins aboutis. Le truc cool avec Electric Man Return, en tout cas, c'est que c'est un des premiers morceaux sur lesquels on a avancé tous les trois en même temps. On est parti de globalement zéro. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il est que la simplicité marche. C'est que, voilà, du coup, c'est vraiment un morceau qui est né de nous trois en même temps. C'est pour ça aussi que c'est un des morceaux qui ressemble quand même quelque part le plus à ce qu'on faisait avant.
Ouais, bah ouais, bien sûr. Ouais.
Et c'est vrai que toutes ces raisons font, perso, c'est aussi un des morceaux que je préfère, quoi.
Mais après, vous avez décidé de quand même pas faire 20 fois le même morceau.
Bah, malheureusement, il y aura toujours quelqu'un pour trouver qu'on fait 20 fois le même morceau, et c'est normal, parce que...
Et on le connaît, on a son nom.
Non, mais c'est vrai
qu'il s'appelle Ludwig van Beethoven.
La sensibilité musicale fait que... nous, on trouve... Enfin, on essaye de nuancer un peu nos compositions et d'avoir un truc qui est un peu différent d'un morceau à l'autre. Pour une oreille extérieure... ça va quand même beaucoup ressembler tout à la même chose. Mais on essaye de pas trop le faire.
Mais c'est parce qu'on a notre patte, c'est pour ça.
Notre patte.
On a une personnalité forte. Non mais c'est un peu la même chose quand j'écoute distraitement un album de rap. J'ai l'impression que tous les morceaux sont les mêmes.
Tu viens de donner ton âge à tout le monde. Là.
Je l'assume complètement. Je l'assume, mais totalement. Je suis né la meilleure année du millénaire précédent. Je suis né en 1969. On fera jamais mieux.
Incroyable.
Voilà. On a marché sur la lune et je suis né. Une bonne année.
Pas mal. Une belle année.
Je pense que ce sera le titre de mon autobiographie.
Bah, j'ai hâte de la lire alors.
Je pense que je vais le garder. Je vais même le déposer, ce titre-là, pour être sûr qu'on me le vole pas. Qu'est-ce qu'on dit comme bêtise quand même? Et c'est aussi pour ça qu'on aime le rock. C'est qu'on n'est pas obligé de passer son temps à se prendre au sérieux.
Rarement. On se prend rarement au sérieux. Quand
même. Ça serait vraiment de mauvais goût de notre part de se prendre au sérieux parce qu'il n'y a vraiment rien de bien qui pourra en ressortir. Quoi. On n'a clairement pas le niveau pour se prendre au sérieux.
Donc en fait, vous n'avez pas l'ambition de faire un concept album, des chansons à texte
Alors, je pense qu'on peut être extrêmement sérieux dans sa pratique musicale. Oui. Et d'ailleurs, même... pour le coup, c'est ce qu'on essaye de faire. On a fait ça trop longtemps... vouloir prétendre qu'on se moquait de tout et que, de toute façon, on voulait juste s'amuser et qu'on essayait même pas de bien jouer nos chansons.
Je sais même pas s'il y avait une réflexion à l'époque, en fait, autour de ça.
C'est pas sûr. Ouais. Mais en tout cas, maintenant, on essaie d'avoir la réflexion et de se dire, c'est pas parce que on s'amuse qu'on peut pas essayer de bien jouer, quoi. Mmh. Et c'est vrai qu'il y a énormément de groupes qui jouent très bien et qui ont des chansons qui peuvent d'ailleurs avoir des sujets plus ou moins sérieux et qui sont capables de l'aborder d'une manière... non sérieuse, quoi.
C'est fun. Cool. Faut le faire sérieusement sans se prendre au sérieux.
Exactement. Voilà. C'est super dur.
Beau résumé.
Voilà. Faut pas penser qu'on fait de l'art avec un A majuscule.
De l'art avec un A minuscule suffit.
Voilà, exactement. Je suis assez d'accord. Oh, putain. Alors, faut pas me lancer là-dessus. Je vais vous faire le discours sur les arts majeurs, les arts mineurs. Ça va être compliqué.
D'autant que changeons de sujet alors.
Ah, en plus, personne n'est jamais d'accord avec moi, donc c'est parfait. Bon, si on écoutait un nouvel extrait de ce deuxième disque, et juste avant, est-ce que vous avez déjà des morceaux que vous n'avez pas encore enregistrés?
Absolument non. Zéro.
Là, on a tout dévoilé. Là.
Vous avez voilà, ouais. On a mis tout ce qu'on avait, mon bon monsieur.
Mais il est vrai qu'on a, un rythme de... On se voit pas très très souvent. Et ça fait que ouais, là, on a vraiment mis... on a enregistré le disque. Et franchement, heureusement qu'on l'a fait, parce qu'après, on ne s'est pas vu pendant quelque chose comme 4 mois, je crois. Comme s'il y avait eu un nouveau confinement qui n'a pas eu lieu.
Donc... Juste le temps de presser le vinyle.
Bah ouais, ça a pris un peu plus de temps, parce qu'il a fallu faire le mix, tout ça, et c'était long. Mais effectivement, là, pour le moment, c'est tout ce qu'on a, et puis on va déjà essayer de faire des concerts avec ça, pour commencer.
Parfait. Est-ce que Slumber Part 2, ça vous convient?
Avec plaisir. Très bien.
Tous les morceaux me conviennent.
Très bien. On est content de notre disque. C'est le morceau qui clôture la phase B et donc l'ensemble du disque des Edgar Suits. Edgar Suits dans la pyrophonie sur Campus Grenoble 90.8 avec un extrait de leur deuxième sortie. Vous avez prévu de donner des images à votre musique, clip vidéo ou pas du tout?
On n'a pas du tout envisagé ça à l'heure actuelle. Parce que toujours les mêmes problèmes en fait. Enfin,
oui.
Quand on a du temps pour se capter, l'important je pense c'est de répéter, d'essayer d'aller faire des concerts au maximum. Si en plus on essaie de caler du temps pour faire un clip, je sais pas si on va réussir à y arriver quoi.
Ouais.
J'aimerais qu'on y arrive, mais.
Ils aimeraient en faire un parce qu'il y a des groupes qui trouvent ça tellement naze que c'est même pas un projet quoi.
Moi c'est nous que je trouve naze. On est trop beau pour faire un clip.
On est trop beau pour un clip.
En vrai, franchement. Attends, on parle, coupe les micros, on parle entre nous. mais je pense qu'on fera pas de clip.
Non, je pense qu'on la fera pas.
Ok.
Bon, déjà faire une photo, c'est compliqué.
Voilà, exactement.
Oui, d'ailleurs, les pochettes, c'est qui s'en est occupé?
Les pochettes, c'est des graphistes de Lyon qui ont fait la pochette du deuxième. Ce qui s'appelle Studio Ordinaire.
D'accord. Et en fait, c'est une commande que vous leur avez faite ou vous avez vu leur travail un peu par hasard et que vous leur avez...
Non, c'est globalement une commande.
D'accord.
En fait, la pochette du deuxième est un élément de la pochette du premier.
Oh putain la vache.
Ah bah, il va falloir chercher et trouver maintenant. Hein.
T'es pas obligé de...
Non mais c'est un petit jeu comme ça quand bah t'écoutes les disques.
Okay, c'est un peu un truc fractal, tu vois, à chaque pochette qu'on fera, ce sera un zoom de la pochette précédente et à la fin, paf, on reviendra sur la première.
Okay.
À la fin, tu les mets au mur et t'as la première pochette mais en 5 mètres par 4.
Ah mais oui, exactement.
Oh, c'est trop compliqué.
Bon, par 5, ce sera mieux, c'est un carré en fait.
Eh ben, je pense que ça signifie qu'il est temps qu'on se quitte.
C'est toi le chef.
Je pense que c'est une bonne chose.
Non, mais on arrive au terme de l'émission. On rappelle que la release party se tiendra le 11 janvier au Troxon à Lyon.
C'est ça, avec Seb Radix et son nouveau projet musical qui n'est pas
Paradox.
Seb. Voilà, merci Radix Paradox, heureusement que t'es là.
Samedi 11 janvier, au Troxon à Lyon, la release party pour le deuxième disque des Edgar Suits. Et on va écouter le morceau préféré des gens.
Le peuple a parlé.
C'est ça. Pour finir cette émission, merci de votre attention. Vous avez les liens pour le concert et pour commander le disque sur le podcast de cette émission qui est sur le site de la radio campusgrenoble.org. Les Edgar Suits, merci d'être venu. Je vous envoie en répète si j'ai bien compris.
Merci beaucoup.
C'est ça, merci à toi.
À très bientôt. Salut.
Salut.